Les Apatrides Anonymes, votre rendez-vous bimensuel pour tout savoir des enjeux d'immigration, de sécurité nationale, de racisme au Québec, au Canada et un peu partout dans le monde. Bienvenue à cette deuxième édition des Apatrides Anonymes. Avec vous aujourd'hui à l'animation, votre humble servitrice Marie-Ève, accompagnée de mes deux comparses, Mathieu. Bonjour Mathieu.
Bonjour
Marie-Ève. Bonjour Simon à la mise en onde, qui nous fait des tatas. Alors, au menu aujourd'hui, 7 avril, une entrevue avec Daniel qui nous raconte son expérience du système d'immigration canadien, l'exposition de Kent Monkman au musée McCord, la minute coloniale et le mouvement de déboulonnement de statues et monuments, une chronique sur le logement et l'immigration, mais d'abord, l'actualité québécoise avec Mathieu.
Bonjour tout le monde. Impossible, malheureusement, aujourd'hui de ne pas parler du débat, des débats sur les politiques, sur les obsessions compulsives, sur les promesses absolument absolutistes de la CAQ qui doivent être réalisées dans un temps record, quitte à écraser un peu tout le monde. Donc, pas grand-chose de nouveau en tant que tel sur les faits vous annoncer aujourd'hui, mais c'était important d'en parler, je voulais vous en parler, en mettant un peu de contexte autour de ce débat, de ces enjeux actuellement, avec un peu de recul puis un petit peu de projection aussi. Vous savez que plus tôt aujourd'hui, il y avait une manif contre le projet de loi 21 au centre-ville de Montréal. Il y en aura une autre la semaine prochaine, le 14, je vais vous en parler tantôt. Peut-être pour quelques faits, pour les quelques personnes qui ont pas écouté les médias depuis 2-3 semaines, le projet de loi 21, projet de loi sur la laïcité, mais que beaucoup appellent le projet de loi sur les signes religieux, vous savez que ça identifie plusieurs fonctions dans les services publics, dans les sociétés d'État, dans les ministères, et même dans les réseaux qui sont supposément indépendants comme le réseau de l'éducation, qui est pas, c'est pas des fonctionnaires de l'État en tant que tel, mais on vise, vous le savez, évidemment, les enseignants-enseignantes et aussi les directeurs, directrices et adjointes d'école, et surtout, bon, on a mis une petite clause qu'on pourrait appeler pas grand-père, mais mononcle, peut-être la clause mononcle.
Où est-ce que on ça serait plus à propos, en effet.
Avec le gouvernement qu'on a. Donc, qui permet aux gens qui sont déjà là de garder leur signe religieux, par exemple, le temps qu'ils gardent le même poste. S'ils changent de poste, s'ils ont une promotion, s'ils veulent transférer de ministère ou d'école, ils perdent ce droit acquis, entre guillemets. Donc, dans les gens visés, ben, j'ai quand même trouvé ça drôle qu'on parle des agents de la Fonde, par exemple, des directeurs adjoints d'école, des régisseurs de la régie du logement, des notaires de certains ministères, donc des gens supposément en position d'autorité ou en position coercitive.
Mais les agents de la Fonde sont en position d'autorité par rapport à
coercive parce qu'ils ont une arme sur eux. C'est ça le petit trick. Okay. Donc, mais évidemment, comme je vous disais, les gens qui veulent changer de poste, faut qu'ils, à la fin de leur mandat, doivent perdre leur droit acquis, leur clause mononcle François. Donc, ici, on parle de l'ensemble des symboles religieux, mais peut-être la particularité, c'est que, contrairement au PQ et la Charte des valeurs, il n'y a pas de liste de signes religieux. Donc, on identifie ce qui pourrait être un signe religieux. Donc, ça laisse place beaucoup à l'arbitraire. Il y a même des gens qui ont parlé des rastas, des dreadlocks. Il y en a qui ont parlé des tattoos. Mais ça, le ministre robot, Jolin Barrette, a tout de suite dit que c'était pas inclus là-dedans, qu'il ferait pas de fouille à nu. Quand même, il a précisé. Donc, c'est un peu ça. Il y a quand même du flou.
Mais est-ce qu'il faut qu'il soit visible?
Exactement. Faut qu'il soit enlevable sur toi aussi, évidemment.
T'sais. OK.
Un tatou, c'est un petit peu plus difficile.
Ouais.
Donc, c'est un peu ça. Puis, on a vu aussi le bordel autour des conséquences ou des sanctions possibles. Envoyer à la police. On a vu toutes sortes de délires cette semaine à l'Assemblée nationale. Donc, voilà. Puis, il y a la question du visage découvert dont on a moins parlé, qui, lui, est assez, au niveau du projet-là, est assez intrusif. Intrusif et large. On parle que quelqu'un qui a le visage couvert par un signe religieux ou autre ne pourra pas être élu ni à l'Assemblée nationale ni au niveau municipal et ne pourra pas être médecin, dentiste ou responsable d'un service de garde. Donc, c'est quand même assez large. Et évidemment, ben, ce qui fait sourciller plusieurs personnes, c'est que les écoles privées ne sont pas incluses dans le projet de loi. On parle seulement des écoles publiques.
Ah, ben oui,
ça joue. Et peut-être vous dire aussi qu'on a eu un petit nanane aussi parce que le gouvernement Legault veut retirer le crucifix de l'Assemblée nationale. C'est son geste de bonne volonté. compter pour faire passer le reste, comme on pourrait dire.
Faire passer la pilule.
Faire passer la pilule. Donc, ben voilà, peut-être vous dire qu'il y a eu des réactions assez rapides. Dès le lendemain, grosse conférence de presse avec beaucoup de groupes de droits humains, groupes communautaires, groupes ONG et compagnie. On a parlé d'un projet raciste, dangereux, fondé sur la peur. Il y a entre autres la table de concertation contre le racisme systémique qui a été assez active, qui participe entre autres à l'organisation de manifs contre le racisme depuis quelques mois. C'est sûr, on a parlé aussi que le concept de laïcité de l'État, c'était pas ça, évidemment, parce que là, on vise des individus et non pas l'État en tant que tel. Au niveau, évidemment, féministe, il y a toute une approche à avoir là-dessus. Parole de femme, la FFQ en ont parlé. Stigmatisation des femmes voilées musulmanes. Isolement, barrière d'accès à l'emploi et aux services publics. Violation des droits civiques. Violence potentielle augmentée pour ces femmes-là qui sont visées, qui sont hyper visibles, mais qui sont en même temps exclues du débat sur, qui les concerne. Donc, on parle que la discrimination est maintenant acceptable au Québec, est vraiment enchâssée dans une loi, et qu'évidemment, on vise des minorités, la majorité vise des minorités, donc c'est en général assez inquiétant quand on regarde au niveau historique. Et on parle ici d'un groupe spécifique de femmes, et on parle que la CAQ veut protéger les valeurs québécoises, mais on n'a jamais eu le débat vraiment sur c'était quoi les valeurs québécoises, non, évidemment. Ça. Et est-ce qu'ils sont si fragiles pour qu'on justifie d'exclure et de stigmatiser des minorités dans ce cas-là?
Non, non, c'est ça, c'est plus, ça a vraiment l'air d'une position de repli plutôt qu'une position d'affirmation d'une fierté quelconque,
ou d'une
si
protection
cas,
de quelque ouais, chose qui doit être gardé ou qui ouais. est en danger, tout ouais. à fait. Peut-être vous mentionnez aussi le regroupement québécois de l'Action communautaire autonome a fait un bon communiqué la semaine passée en parlant d'un enjeu de justice sociale qui vise à limiter les droits de personnes marginalisées. La Ligue des droits a rajouté que ce projet de loi crée du profilage religieux ou culturel. On parle ici encore une fois d'un enjeu féministe, évidemment, de banaliser et même d'augmenter la violence que ces femmes-là subissent, et on parle pas ici du droit à l'emploi entre autres, et de leur autonomie. On parle aussi de l'attention démesurée accordée à cette question par le gouvernement qui concrétise l'idée qu'il y aurait une montée du religieux, qu'il y aurait un problème de fond, qu'il y aurait un danger de certaines minorités, au lieu de parler de la recrudescence des manifestations de racisme et d'islamophobie qui devraient être traitées de façon immédiate. Donc, puis au niveau des organismes communautaires, c'est une question que je trouve intéressante. C'est les groupes communautaires qui interviennent dans les écoles, entre autres, est-ce qu'ils vont devoir se plier à ces mêmes règles-là aussi? Que le projet de loi au niveau des signes religieux, parce qu'il y a beaucoup de monde, beaucoup d'employés, de bénévoles dans les groupes communautaires qui sont dans des minorités religieuses. Donc, évidemment, ça détourne notre attention des vrais enjeux collectifs, qu'on parle de pauvreté, d'environnement, d'éducation, de santé. Donc, c'est sûr qu'on sait c'est quoi un peu l'idée en arrière de ces projets de loi-là en général. Peut-être vous dire aussi, ben dans un contexte peut-être plus global, il y a ce projet de loi-là 21, il y a le projet de loi 19 sur l'immigration qui a été lancé au mois de janvier, début février, le fameux 18 000 dossiers qui concerne près de plus de 50 000 personnes qui dont le dossier d'immigration a été mis dans les poubelles. En tout cas, c'est suspendu par la Cour pour l'instant, mais c'est quand même le projet. On parle d'abaisser le seuil d'immigration à 40 000 personnes au lieu de 50 000. On parle du test des valeurs, test de francisation, d'arrimage des personnes migrantes au marché du travail, particulièrement en région. Donc, obliger les gens à aller vivre dans telle région au Québec, par exemple, par un système assez complexe et pas tout à fait détaillé.
Non, c'est ça, c'est assez flou, ça aussi. Hein?
C'est assez flou. Donc, c'est tout ce contexte-là là, qui est dans l'air. Projet de loi 17 sur l'industrie du taxi aussi, si on veut faire un lien général sur les intentions de la CAQ, ben on parle évidemment de beaucoup d'immigrants ou de personnes résidentes qui sont chauffeurs de taxi, qui vont perdre leur emploi aussi, qui vont s'endetter, qui vont se retrouver dans la merde finalement. Et encore une fois, on vise un peu le même genre de clientèle ou de cible qui ont vraisemblablement pas voté.
Majoritairement des personnes immigrantes.
D'origine migrante ou migrante et qui n'ont pas voté pour la CAQ, on s'entend, parce qu'on parle ici vraiment d'un populisme, d'un électoralisme. La CAQ, évidemment, on peut comparer à ce discours-là de faire ça tout de suite en début de mandat à ce que Trump fait depuis qu'il est là avec le mur et avec la stigmatisation des immigrants pour pas parler des autres problèmes. En Italie, toutes les législations contre les migrants, l'interdiction au bateau de migrants repêchés ou de personnes réfugiées de la mer d'accoster. Donc, tu sais, des gouvernements populistes qui se servent de cet enjeu-là pour masquer, comme je disais tantôt, les autres enjeux importants pour la population. Donc, d'ailleurs, je vais parler du logement tantôt. C'est un mm-hmm. enjeu important dont on pourrait parler au lieu de parler de signes religieux. Et en plus, au niveau politique, la CAQ a déposé un budget il y a 2 semaines qui avait quand même des mesures un peu sociales parce qu'il y avait du rattrapage à faire suite à l'austérité des libéraux. Pour la suite, ça risque d'être autre chose. Mais ce budget-là a été complètement relégué aux oubliettes par leur projet de loi qu'on peut qualifier de xénophobe, raciste et stigmatisant. Donc, au niveau de la stratégie politique, puis au niveau de
En tout cas, c'est tout sauf inclusif, là.
C'est tout sauf inclusif, exactement. Et si on compare le budget et les clientèles ciblées comme les aînés, qui est peut-être l'électorat plus traditionnel de la CAQ, traditionnel en tout cas connu, et là, on vise par plein de projets de loi à taper sur les personnes migrantes. Vous avez vu la résistance qui s'organise dans certains coins de Montréal, du Québec, dans l'ouest de Montréal, entre autres. Il y a des gens qui ont des propos assez forts. Et on voit que ça passera pas comme ça. Ça se réglera pas avant l'été. Il va y avoir, même si la commission parlementaire dure un certain temps et que c'est forcé par le baillon à l'Assemblée nationale, c'est sûr qu'il va y avoir de la résistance à long terme. Puis quand on rajoute les autres projets de loi et ce qui s'en vient de la CAQ aussi, parce qu'il y a d'autres projets en l'air, je pense qu'on est là pour un bout de temps sur ces questions-là. Fait que, vous dire.
On a rendu des heures et des heures de plaisir.
Notre émission commence, hein? Fait que, disons que...
On va avoir du contenu.
Fait qu'en terminant, il y a un rassemblement, donc, dimanche le 14 à 14h, à Émilie Gamelin, contre le projet de loi 21. Et peut-être vous dire, en finissant aussi, qu'il y a la Solidarité sans frontières qui a sorti une déclaration, avant-hier, contre le projet de loi, qui fait des liens plus avec capitalisme, colonialisme, les enjeux internationaux. Donc, ça vous tente d'aller lire ça sur leur site, là. J'ai pas eu le temps de vous l'éplucher. Mais ça vaut la peine. Et aussi, il y avait eu une manifestation, quelques semaines, dans le fond, la journée de notre première émission, il y avait une manifestation donc contre le racisme et qui avait aussi toute une thématique qui était à la fois pour appuyer la résistance au racisme, à la fois pour appuyer le mouvement antiraciste ici et ailleurs, et aussi pour dénoncer les politiques de la CAQ actuelle. Donc, dans un contexte aussi de montée de l'extrême droite, tout ça, de populisme, je pense qu'on a tout un cocktail pour avoir, je sais pas si on peut appeler ça un débat, mais en tout cas... comment appeler ça, Marie-Ève? Pas une chicane, mais tu sais,
une bouillie, peut-être plus qu'un débat.
Ouais, c'est ça. Puis on va entendre toutes sortes de niaiseries. Puis Simon, il y a 2 semaines, parlait de Denise Bombardier qui dénonçait les groupes qui accusaient des médias ou des chroniqueurs ou des politiciens d'attiser la stigmatisation.
Ah, mais là, tout le monde s'en donne à cœur joie.
Écoute, depuis ce projet de loi-là, c'est la folie furieuse. Là, ouais. Donc, voilà. Fait que je vais conclure là-dessus pour cette chronique sur l'actualité québécoise.
Merci beaucoup, Mathieu.
Merci.
Donc on va aller bientôt avec Marie-Ève dans quelques secondes.
Lors de notre première émission, il y a 2 semaines, nous avions reçu Camille de Solidarité sans frontières pour discuter de la nouvelle prison pour personnes migrantes à Laval, qui sera en construction très bientôt. Aujourd'hui, nous vous présentons des extraits d'un entretien réalisé par 2 membres de Solidarité sans frontières avec Daniel, un nom fictif pour des raisons de sécurité pour le protéger. Donc Daniel qui a été détenu au centre de détention de Laval en 2014. Daniel est arrivé du Mexique à Montréal en 2008 avec sa mère et sa sœur alors qu'il avait 10 ans. En 2010, la demande de statut de réfugié de la famille a été refusée et la mère a fait le choix difficile de vivre sans papier plutôt que de compromettre la sécurité et l'avenir de ses enfants en retournant au Mexique. En octobre 2014, alors que Daniel va rendre visite à ses camarades à son ancienne école le jour de ses 17 ans, il est arrêté par des agents du SPVM devant tous ses amis. Il sera détenu pendant 1 semaine à Laval avant d'être déporté seul vers le Mexique en octobre 2014. Écoutons Daniel, qui a aujourd'hui 22 ans, raconter les circonstances de son arrestation.
Il y avait 2 policiers qui m'ont mis d'un côté, donc j'avais plus de choix que justement de répondre. Donc après ça, ils m'ont dit, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui a... contacter la police, on ne sait pas qui. Est-ce que tu as un problème avec tes papiers d'immigration? Puis moi, je leur ai dit non, pourquoi tu me demandes? T'as pas le droit de me noter. Parce qu'après ça, c'est là qu'ils m'ont noté. Donc, Donc, bon, c'est ça, je lui ai dit, t'as pas le droit de me noter, mais il m'a dit, ben non, inquiète-toi pas, on va juste te poser quelques questions, parce que c'est même pas moi qui va te questionner, c'est une personne d'immigration. Et après ça, on est allé dans la poste de police, et puis, bon, ben, tout le monde m'a regardé, on était à l'école, et puis tout le monde a regardé comment ils m'ont noté, et puis on est allé justement dans la voiture de la police, et puis après ça, ma soeur était, ben carrément, elle était en train de leur crier pour qu'on me laisse. Et après ça, on est allé au poste de police, et une fois qu'on était rendu là-bas, il y a un monsieur, je me rappelle plus de son nom, malheureusement. Et c'était un monsieur qui m'a dit, bon, tu sais déjà pourquoi t'es là, j'ai pas besoin de t'expliquer beaucoup. Tu sais que t'as pas le droit de rester ici ou dans ces pays, t'es en qualité d'illégaux, je me sens qu'il m'a dit quelque chose comme ça, ou je me rappelle plus vraiment, ça fait vraiment longtemps. Et après ça, ben, il m'a dit, Meghna, c'est fini pour toi, tu vas retourner finalement dans ton pays. Il m'a dit quelque chose comme, on veut pas de ce genre de problèmes ici.
Après son arrestation et en fait pendant toute sa détention, l'Agence des services frontaliers du Canada, la SFC, ont fait des pressions sur lui pour qu'il signe des papiers affirmant qu'il acceptait d'être déporté, seul en plus, ce qu'il a toujours refusé de faire en disant qu'il était mineur. Il a subi des pressions pour ça, mais également des pressions pour qu'il dénonce sa propre mère auprès des autorités de l'immigration.
À un moment donné, il y a deux messieurs, je me rappelle plus, c'était des différentes personnes, une madame et un monsieur. Il y a une traductrice qui était là-bas. Ils étaient en train d'écrire vraiment tout ce que je disais et tout ce qu'eux ils demandaient. Mais à un moment donné, ils ont arrêté d'écrire. Pourquoi? Parce qu'il y a un monsieur du centre de migration à Centreville qui m'a dit, « Mais tu sais quoi, mon jeune homme, toi, tu vas partir d'ici. Moi, aujourd'hui, je vais arriver chez moi avec ma famille. » Et toi, tu vas aller retourner dans ton pays toute seule. Donc, c'est mieux de nous dire, elle est où ta mère? Ou sinon, tu vas partir toute seule.
La détention peut être très difficile psychologiquement, surtout pour un jeune homme comme Daniel, pendant la semaine qu'il a été détenu, complètement isolé des autres détenus, étant donné qu'il était mineur. Ajoutons à ça le fait de ne jamais savoir quand se terminera la détention, quand aura lieu la dite déportation et le fait également de n'avoir pratiquement aucun contact avec l'extérieur. Tout ça fait que la détention en immigration est une expérience extrêmement traumatisante.
Tant que je contactais sur le téléphone, ils plaçaient quelqu'un qui parlait espagnol. Si jamais je commençais à parler espagnol, ils peuvent comprendre ce que je disais. Et puis, c'était vraiment un petit peu énervant parce que il était vraiment collé sur moi au moment de contacter quelqu'un sur le téléphone. Je me rappelle pas si c'est l'avocat ou une madame de la Croix-Rouge qui lui a demandé de pas faire ça, de justement d'être collé et de me laisser parler avec n'importe qui que je veux, parce que j'étais là toute seule. Mm-hmm. Donc, je suis pas un criminel. Il a commencé quelque chose à dire. Il a commencé à dire quelque chose comme ça, comme je suis pas un criminel. Laisse-lui respirer un petit peu. Laisse-lui parler avec les personnes qu'il aime. Justement, la raison d'y être comme emprisonné, ça te donne l'impression que t'es un genre de criminel ou t'es pas une bonne personne pour la citoyenneté. Tu sais, quand tu sais déjà et puis tu commences à y penser, tu sais déjà que tu vas partir, donc ça te donne pas le goût de sortir et de parler avec personne parce que tu sais déjà qu'ils vont commencer à te poser des questions. Tout ce qu'ils me disaient tout le temps, comment parler, comment ils m'ont fait sentir, comment, ouais. Parce que c'était vraiment... Vraiment, quand ils m'ont demandé, ils m'ont posé cette question, ils étaient vraiment agressifs. En plus, il me semble, j'ai eu l'impression justement, qu'ils ont mis un monsieur qui était vraiment musclé, justement, pour m'intimider. Je sais pas, j'ai eu l'impression parce qu'il y avait des autres personnes qui étaient pas de ce genre. Je passais pas mal tout le temps à y penser à tout ça.
Ouais.
C'est comment ils m'ont arrêté, et puis mes amis qui m'ont vu. Et puis l'école, ce qui m'inquiétait un petit peu, c'est qu'il me disait genre, il me disait jamais c'est où que je vais y aller. Il me disait tout le temps que maintenant, ben on jouait un petit peu avec moi. Il me disait tout le temps non, tu sais, aujourd'hui c'est aujourd'hui que tu vas partir, donc on va aller à l'aéroport. On jouait un petit peu avec moi, donc c'est justement pour ça que je trouvais un petit peu difficile. Puis en fait, ça l'a...
Daniel a été amené à l'aéroport le 16 octobre 2014 et mis de force à bord du vol Aeromexico AM681. Les agents de l'Agence des services frontaliers qui l'ont amené n'étaient pas identifiés, ils étaient en civil, ce qui était très insécurisant pour Daniel.
La journée où est-ce que je devrais partir, ben il y avait des personnes, c'était vers 5h du matin qui m'ont levé. Ah oui, à un moment donné, et puis on regardait c'est quoi que j'avais dans ma valise. En fait, dans ma valise, il me semble qu'il y avait 25 sous. Il m'a dit c'est tout ce que la madame d'immigration, il m'a dit c'est avec tout ce que tu vas partir avec 25 sous. Puis elle a commencé à rire. Moi, je pas trouvé ça drôle. J'allais seulement partir avec mes vêtements et tout ça, donc elle a rigolé. Et puis moi, je pas trouvé ça drôle pendant tout. Après ça, on était monté dans la voiture avec deux agents d'immigration, avec des vêtements des citoyens. Il y avait pas de vêtements d'immigration. Je sais même pas avec qui je suis. Il m'a dit non, inquiète-toi pas, t'es avec des agents d'immigration, et je sais pas. Il m'a dit ah oui, mais tu peux le prouver, mais ils ont pas eu un moyen de le prouver, malheureusement. Donc, j'avais plus le choix, vraiment, j'avais pas le choix, mais justement, de monter dans la voiture. Tandis que j'avais pas de confiance de monter dans la voiture, mais après ça, bon, tout était correct. Donc, on était rendu à l'aéroport. On m'a dit, mais inquiète-toi pas, tu vas arriver au Mexique et tu vas arriver avec un centre de DPJ. Comme ici au Canada, ils vont te traiter vraiment bien, tu vas continuer tes études.
On lui disait donc qu'il serait pris en charge à son arrivée au Mexique et que des agents de l'Agence des services frontaliers s'assureraient qu'il serait accompagné et en sécurité. Mais ce n'est pas du tout ce qui s'est passé. Heureusement, une autre de ses sœurs était là pour lui.
Il y avait des personnes, justement, du centre de jeunesse qui s'appelle DIF, qui m'attendaient à l'aéroport. Et bon, en fait, les personnes de l'agence frontalière, ils ont parti, donc ils ont même pas pris la peine de savoir si sont qui les personnes, si c'était les personnes correctes. La DIF, le centre jeunesse du Mexique, m'a laissé avec ma sœur. Il allait me visiter justement chaque semaine pour voir si tout était correct chez nous, on pourrait dire. Mais ils sont vraiment jamais venus avec moi. Ils ont dit qu'ils allaient m'aider avec mes études. Ils m'ont jamais aidé. Bon, après ça, ça a été tout le temps difficile.
Daniel n'avait pas mis les pieds au Mexique depuis l'âge de 10 ans, pays qu'il avait quitté avec sa mère et sa sœur parce qu'il craignait pour leur sécurité. Il ne savait donc pas ce qui l'attendait et on lui avait sans cesse répété qu'il serait en sécurité.
Eux, ils connaissent pas aussi nécessairement comment est-ce qu'on vit ici au Mexique. Donc, moi, je pense ou j'ai l'impression qu'ils m'ont menti. Ils m'ont dit carrément que c'est la même chose ici, Montréal qu'au Mexique. C'est qu'ici où est-ce que j'habite, on attend tout le temps, dans la nuit, on attend tout le temps des armes à feu. Donc, on attend des leçons des AK-47. Il y a aussi des personnes qui ont été tuées. Devant ma maison, vraiment devant la maison où est-ce que j'habite maintenant, ils ont tué une personne, un jeune homme de 21 ans à peu près.
5 ans plus tard, quelle image garde-t-il du Canada? On l'écoute.
Dans la chambre où est-ce que j'étais, si j'ai monté un petit peu, je pouvais voir les gens, les adultes, les hommes. Mais moi, j'ai eu l'impression que c'était vraiment beaucoup des personnes qui étaient déportées. Mais en fait, j'ai jamais cru qu'au Canada, on déportait tellement de personnes ou qu'il y avait vraiment beaucoup de personnes avec un statut comme le mien. Ils ont deux facettes. Il y a une facette qui montre au public comme quoi ils sont vraiment un pays qui aide aux immigrants. Mm. Après ça, j'ai l'impression d'avoir une autre facette qui est vraiment, tu sais quoi, toi, tu ne vas pas me servir de rien, donc tu vas t'en aller à ton pays, même si on va te mentir.
Venez d'entendre Fiddler avec la pièce Almost Free, qui fait partie du palmarès anglophone de Choc. Alors, vous comprendrez que vous êtes toujours sur les ondes de choc.ca et vous êtes toujours en onde avec les apatrides anonymes. Aujourd'hui, au calendrier antiraciste, je vous propose une exposition. Je vous avais dit, quand on vous a présenté le calendrier antiraciste il y a 2 semaines, que on ne parlerait pas seulement de conférences ou de manifs, mais qu'on voudrait aussi essayer de parler d'art, mais toujours dans nos thématiques d'émission. Alors, je vous propose l'exposition de l'artiste visuel d'origine crie Kent Monkman, qui est présentée au Musée McCord. L'exposition, intitulée « Honte et préjugés, une histoire de résilience », revisite l'histoire coloniale du Canada depuis la signature de la Confédération jusqu'à nos jours, soit 150 ans qui ont été marqués, disons-le, par la mise en place de politiques génocidaires et dévastatrices envers les Premières Nations. Mais c'est aussi une célébration de la résilience des communautés autochtones. Tout au long de cette exposition, c'est le flamboyant alter ego spirituel de Monkman qui s'appelle Mischief Eagle Testicle, vous avez bien entendu, qui nous guide donc tout au long de cette expo et qui agit un peu comme narrateur de l'exposition. La mise en espace des tableaux, des sculptures et des installations de Monkman relève un peu d'une scénographie qui s'inspire des vieux manuscrits de l'époque, par exemple des relations de jésuites ou des carnets de voyage de découvreurs, entre guillemets, et qui est divisé en 9 chapitres qui abordent différentes thématiques à la fois chronologique, mais pas que. Et donc, chacun de ces chapitres-là, ou qui sont des petites salles d'exposition également, sont introduits par Mischief, sous la forme de récits à la première personne et qui servent à contester l'interprétation prédominante de l'histoire du Canada. Je vous donne un exemple. Le chapitre 4, on est introduit par un panneau où on peut lire un extrait d'un discours ou d'un texte qui date de 1789 de John A. Macdonald, notre cher premier ministre du Canada.
Notre préféré,
sur la nécessité de séparer les enfants autochtones de leurs parents. Donc, ce texte-là est ensuite mis en parallèle avec un extrait du rapport de la Commission Vérité et Réconciliation qui présente un témoignage sur les pensionnats autochtones. Et finalement, qui se conclut par un court texte de Miss Chief qui se lit ainsi. « Je ne peux parler de cela. La douleur est trop profonde. Nous ne serons plus jamais les mêmes. » Donc, oui, c'est sûr que c'est très tragique, hein. C'est pas une histoire hop la vie, disons, là, l'histoire du Canada comme pays colonial et des Premières Nations. Mais une des particularités quand même de Monkman, pour ceux et celles qui le connaissent, c'est son humour et son désir très fort de la provocation, qui est très 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 réussi. D'ailleurs, si vous, quand vous allez sur le site, la page, disons, de l'expo sur le site du musée, mais aussi quand vous entrez à l'entrée de la salle d'exposition, le musée McCord indique pour public averti. Par exemple, vous allez comprendre pourquoi, dans le chapitre 3, qui s'intitule « Les pupilles de l'État ou le problème indien », on retrouve un immense tableau qui est une espèce de fresque qui s'intitule « Les ours de la Confédération » et qui représente en fait sur fond de paysages des Rocheuses. On nous présente une session de BDSM dans laquelle Mischief agit comme dominatrice qui est aidée par des grizzlies. Grizzlies, d'ailleurs, qui reviennent tout le long de l'exposition dans différentes œuvres et où les pères de la Confédération jouent le rôle des dominés. Donc, on en voit qui se font fouetter, d'autres qui se sauvent, ou encore, on en voit un, par exemple, à quatre pattes avec un butt plug.
Donc, on inverse les rôles.
C'est une inversion de rôle. Puis, ce qui est vraiment intéressant aussi des œuvres de Monkman, c'est que chacune de ces... Il y a vraiment un souci du détail vraiment hallucinant. Tu sais, des fois, il faut s'attarder... Tu sais, il faut prendre le temps de regarder sur tous les tableaux, en fait. Il faut prendre le temps vraiment de bien les regarder parce qu'il y a toujours des petits détails qui nous échappent au premier regard. Mais c'est aussi quand on regarde l'ensemble, tous les niveaux et toutes les significations, les couches qui se superposent les unes par-dessus les autres pour former vraiment comme une analyse vraiment globale de chacun des aspects, en fait, qui touchent à l'histoire du Canada. Puis l'expo met aussi en dialogue à la fois des peintures telles que celles que je viens de vous décrire, mais aussi des installations de Monkman qui met en parallèle avec des artefacts historiques, des vrais artefacts historiques, dont plusieurs viennent des collections culture autochtone et arts décoratifs du musée. Donc, chaque mise en espace est comme ça. Donc, évidemment, bon, là, on aborde à la fois les thèmes, je vous l'ai dit, de la colonisation, mais aussi de la traite des fourrures, du pillage des terres et des ressources, de l'enlèvement des enfants. On vient aussi à aborder des enjeux plus contemporains comme l'incarcération massive des Autochtones, mais on va aussi parler des conséquences contemporaines que tout ça a laissé dans les communautés, par exemple la toxicomanie, la prostitution, le haut taux de suicide, la violence faite aux femmes, les femmes disparues et assassinées. Mais quand même, en trame, en filigrane, il y a toujours cette importance de la spiritualité autochtone qui est présente et l'importance donc de la spiritualité autochtone dans le processus de guérison et de résilience pour les Premières Nations. Donc c'est vraiment, je vous conseille vraiment cette expo-là. Prévoyez, je dirais, c'est pour prendre vraiment le temps, là, prévoyez une bonne heure et demie, deux heures, et c'est au musée McCord jusqu'au 5 mai, donc ça vous donne le temps. Sinon, je voulais vous faire peut-être un suivi d'un dossier dont on vous a parlé à notre dernière émission, il y a deux semaines. Je vous parlais, celui de Monica et sa fille, qui étaient menacées d'expulsion et de déportation vers leur pays d'origine, la Hongrie. Eh bien, les procédures d'expulsion ont été suspendues par la Cour fédérale. En tout cas, au moins le temps là que leur demande soit évaluée et pour laisser le temps à sa fille de terminer son année scolaire. Donc, oui, c'est une bonne nouvelle. Mais leur lutte n'est pas terminée, hein, parce que tant que leur demande pour des motifs humanitaires n'a pas été acceptée, elles vivent quand même dans l'insécurité et l'angoisse d'une possible expulsion. Donc, on va vous tenir au courant, évidemment, de ce dossier-là au fur et à mesure qu'il avance. Alors, c'était tout. C'est tout pour le calendrier antiraciste. Et maintenant, on place à la minute coloniale.
Les Apertures Anonymes vous présentent la Minute Coloniale. McDonald's n'est pas seulement un délicieux restaurant. Indeed, Sir John A. McDonald est l'un des pères fondateurs et le premier ministre du Canada, le plus beau et plus grand pays du monde. Il est aussi celui qui a permis à la civilisation britannique de s'étendre de l'est dans l'ouest du Canada au moyen de chemins de fer coast to the coast et atteindre nos magnifiques rocheuses jusqu'à la ville qui porte le nom de la grande reine Victoria. Il a généreusement donné aux Indiens de grands territoires où s'épanouir et vivre selon les règles anarchiques de la nature. Heureusement, Sir MacDonald a aussi offert aux petits sauvages des pensionnats où on leur offrait la possibilité d'avoir une éducation plus avancée en anglais et avec la religion anglicane de Sa Majesté la Reine du Dominion du Canada. Merci Sir Johnny MacDonald pour nous avoir donné un pays dans le Canada Dominion. C'était la Minute Coloniale présentée par les Apertures Anonymes.
Bon, on revient en studio, c'est Simon qui est au micro. Pourquoi on parle de Sir John A. MacDonald? Marie-Ève en parlait aussi tantôt.
Tout est dans tout.
Tout est dans tout, on fait des liens, on est des professionnels. Celui que les historiens considèrent comme un suprémaciste blanc qui ne cachait pas sa sympathie envers les sudistes esclavagistes confédérés aux États-Unis. À une époque où Montréal est une plaque tournante du blanchiment d'argent des armées sudistes et que notre haute société locale, le monde politique, le clergé fréquentent des généraux sudistes qui adorent visiter Montréal. Donc MacDonald, ce raciste qui craignait le croisement des races aryennes et asiatiques, MacDonald qui a imposé une taxe d'entrée de 50$, 50$ au milieu du 19e siècle, je sais pas si vous avez une idée là, que ça peut représenter comme somme, aux Chinois. MacDonald opposé au suffrage universel pour la raison suivante, et je le cite, « Nous devons protéger l'intérêt des minorités et les riches seront toujours moins nombreux que les pauvres. » Et surtout, MacDonald, le principal initiateur du génocide autochtone à coup de politique de la terre brûlée, de déplacement de population, de mise en état de dépendance, de rationnement alimentaire et en cas de soulèvement, on coupait les vivres, politique de famine jusqu'à la mort, système de pensionnat pour enfants qu'on enlevait à leurs parents pour éliminer l'indianité, tout un héritage dont les traces sont encore bien visibles aujourd'hui. C'est pour ça qu'il y a des mouvements populaires et militants. On va se calmer, je m'emporte un peu, là, je pense, mais... Enfin, Sir John A. MacDonald.
Mais il y a de quoi s'emporter, quand même.
Il y a de quoi s'emporter. Donc, je vous ai parlé de lui un peu pour parler aussi en même temps du mouvement populaire de déboulonnement statut qu'on a vu surtout aux États-Unis, mais qui gagne le Canada, qui gagne d'autres pays de plus en plus. Ça fait quoi, 2-3 ans peut-être aux États-Unis, un peu dans la foulée de Black Lives Matter. À Montréal, on a la plus grande statue de MacDonald au Canada, donc au monde,
ah
finalement.
Ah oui, la plus grande est à Montréal.
C'est la plus importante, non seulement le socle, le piédestal, elle est vraiment très importante en plusieurs marbres de différentes couleurs. C'est quelque chose, là, quand même. Elle est régulièrement vandalisée ou aspergée de peinture rouge, ou rouge sang, rouge Canada. Je sais plus quel rouge.
Je pense que ça va ensemble, je pense.
Ouais, on étudiera notre palette
de Pantone.
De Pantone, voilà. ce mouvement-là qui est assez important de un peu, je sais pas comment l'appeler, de correction des commémorations, où on voit ça beaucoup dans la toponymie, dans les monuments commémoratifs, dans, il y a des plaques beaucoup. Aux États-Unis, la première municipalité qui s'est officiellement réveillée, c'était Nouvelle-Orléans, qui, je crois, il y a 2 ans, a fait enlever 3 statues de généraux sudistes et une colonne qui commémorait une victoire sudiste. Mais parfois, ce sont les militants antiracistes eux-mêmes qui, faute d'avoir une réponse des gouvernements, ben, s'en chargent eux-mêmes, donc enlèvent eux-mêmes les statues. Des symboles de pression qui sont partout. Ça peut aller aussi loin, ces symboles de pression-là, que, par exemple, des drapeaux confédérés qui, jusqu'à il y a quelques années à peine, flottaient au-dessus des capitoles de l'Alabama et de la Caroline du Sud. Dans le capitole du Tennessee, il y avait un buste qui mettait en valeur Nathan Bedford Forrest, qui
est question ce sombre quiz, personnage.
Qui c'est le fondateur du KKK, du Ku Klux Klan. Ah. Donc, il y avait un buste à son effigie.
C'est une organisation de charité qui vient en aide aux petits-enfants, c'est ça,
oui,
le KKK?
Oui, je pense qu'ils ont un crédit d'impôt là, pour leurs œuvres. Ouais. C'est la Sainte Enfance, je pense. C'est... Non, c'est pas ça. je ne sais pas si son buste est encore là dans le capitole du Tennessee. Faudrait vérifier. On peut pas ne pas mentionner les événements de Charlottesville qui ont fait le tour du monde, ouais, et qui tournaient autour de l'enjeu d'une statue d'un général confédéré. Exactement. Ici, à part McDonald's, tout ce qui concerne la reine Victoria est aussi contesté. Donc, elle a quand même été à la tête de l'empire le plus sanguinaire de l'histoire de l'humanité. À Montréal seulement, la reine Victoria a au moins 2 statues qui sont régulièrement vandalisées aussi. Un square, quelques rues, une station de métro, un pont, un collège. Et je dois en oublier, là, ça c'était de mémoire, que je suis pas allé vérifier mon atlas montréalais, là, mais je pense qu'il y a plusieurs rues à son nom. Elle a même un jour férié. Elle a même une ville, donc Victoria, Colombie-Britannique, qui ironiquement et comme Halifax a décidé de déboulonner la statue de McDonald's. Donc, des premières au Canada. Ce serait cool de voir la ville de McDonald's déboulonner une statue de Victoria, mais ça se peut pas. Bref, McDonald's étant une icône de la droite conservatrice canadienne, le gouvernement de Doug Ford avait suggéré à la ville de Victoria de lui acheter sa statue pour pouvoir la mettre en valeur dans une ville ontarienne, je ne sais trop laquelle, probablement à Toronto. Mais la ville de Victoria a simplement refusé, a dit « on va la remuser » et c'est tout. À Montréal, on semble plutôt timide pour rendre notre paysage urbain un peu moins dégradant. Le dossier de la rue Amherst traîne en longueur depuis des décennies, mais en tout cas depuis longtemps. Tout ce qui concerne la toponymie, c'est extrêmement long, délicat, obscur même, je dirais. On sait pas trop comment ça marche, mais éventuellement, la rue Amherst devrait porter le nom d'une femme autochtone. C'est ce que la mairesse a dit. On verra si ça a lieu un jour. Il y a Lionel Groulx qui est toujours bien présent dans notre toponymie avec des rues, stations de métro. Il y a un buste au parc Laurier de Isabelle la Catholique, reine d'Espagne, génocidaire. Donc, son buste est toujours là. Vandalisé quelques fois, ça arrive aussi. Pour ce qui est de la statue de McDonald's, la ville, officiellement, elle n'envisage pas de la déboulonner. Elle va rester là. Donc, elle va continuer.
Et où la statue de McDonald's à Montréal?
Elle est au square Dorchester, donc pile René Lévesque, place du Canada.
Avis aux intéressés.
Je pense que les intéressés sont déjà un peu au courant, je pense.
Oui.
En fait, peut-être que McDonald's, il envoie de la peinture rouge pour essayer de le transformer en Ronald McDonald, ça se peut-tu?
Oui, c'est ça.
Sinon, 2 seuls exemples de déboulonnement que j'ai vus à Montréal qui me sont venus en mémoire, c'était l'abbé au centre-ville. Il y avait une plaque qui commémorait le fait que le président américain Jefferson Davis avait habité à cet endroit-là, donc c'est rue Union, rue Sainte-Catherine, à peu près. Donc, un peu en cachette, ils l'ont enlevé pour pas trop faire de vagues, mais ça avait quand même été un peu rapporté dans les médias. Puis sinon, plus récemment, je me rappelle le parc et sculpture Claude Jutras. Suite à un gros battage médiatique, on a fait ça très vite. Mais sinon, les grands génocidaires de l'histoire à Montréal continuent de nous dominer et de nous mépriser du haut de leur piédestal. Une bonne nouvelle, sur les billets de 10$, on a enlevé la face de McDonald's pour la remplacer par le visage intelligent et sensible de Viola Desmond, une militante noire de Halifax. On est toujours à l'émission des Apatrides Anonymes sur choc.ca. On s'en va en musique.
C'est pas la faute à Voltaire. Le nez dans le ruisseau, y'avait pas d'olto. S'il y a pas plus d'anges dans le ciel et sur la terre, pourquoi faut-il qu'on crève dans le ghetto? Plutôt que d'être issu d'un peuple qui a trop souffert, j'aime mieux élaborer une thèse qui
essayer de pas laisser à ces messieurs qui légifèrent le soin de me balancer des ancêtres. On a beau être né rive gauche de la Garonne, converser avec l'accent des cigales, ils sont pas des kilos dans la cité gasconne à faire qu'elle soit pas qu'une escale. On peut mourir au front et faire toutes les guerres et beau défendre aussi joli drapeau, il en faut toujours plus, pourtant y'a un hommage à faire à se tomber à Monte Cassino. Le bruit et l'odeur, le bruit et l'odeur, le bruit du marteau piqueur. Le bruit et l'odeur, le bruit et l'odeur, le bruit du marteau piqueur. Le bruit et l'odeur, le bruit et l'odeur, le bruit du marteau piqueur. Le bruit et l'odeur, le bruit et l'odeur, le bruit du marteau piqueur. La peur est assassine, alors c'est vrai, je pénalise ceux qui flinguent les mormons comme pas la pelouse en bas. Je suis un rêveur et pourtant ami j'analyse, je suis un érudit et je vous dis,
je suis serbo-croate et musulman, voilà le hic. En fait, polonais, républicain et laïque. Et si certains regrettent de pas être noir de peau, je n'ai qu'une réponse, les gars, vous avez du faux.
Qui nous soulève, elle nous décime, j'en ai peur pour la nuit des temps.
Elle aime nos rois, mais faut qu'ils gagnent les tournois. Elle aime Bouli, mais elle jamais rien aboli. Elle aime nos rois, mais faut qu'ils gagnent les tournois. Elle aime Bouli, mais elle jamais rien aboli.
Le bruit et l'odeur, le bruit et l'odeur, le bruit du marteau piqueur. Le bruit et l'odeur, le bruit et l'odeur, le bruit du marteau piqueur. Le bruit et l'odeur, le bruit et l'odeur, le bruit du marteau piqueur. Le bruit et l'odeur, le bruit et l'odeur, le bruit du marteau piqueur. Qui a construit cette route, qui a bâti cette ville et qui n'habite pas? À ceux qui se plaignent du bruit, à ceux qui condamnent l'odeur,
je me présente, voici.
Je m'appelle Larry Mamadou Juan et faites place, Guido, Henri, Gino, Ali, je ne suis pas de glace. Une voix m'a dit marathon, cherche la lumière du gouffre, j'ai épuisé un combat, la bonne affaire, j'en ai bavé de la peur que j'ai lu dans les yeux de ceux qui ont trois fois rien qui le croyaient précieux. Quand j'ai compris la loi, j'ai compris ma défaite. Intégrez-vous, disait-elle, c'est des choses faites alors.
Le bruit et l'odeur, le bruit et l'odeur, le bruit du marteau piqueur. Le bruit et l'odeur, le bruit et l'odeur, le bruit du marteau piqueur. Le bruit et l'odeur, le bruit et l'odeur, le bruit du marteau piqueur. Le bruit et l'odeur, le bruit et l'odeur, le bruit du marteau piqueur.
Le bruit du marteau piqueur, dans tes oreilles tu finis ta vie, elle bourdonne les abeilles. Le bruit du marteau piqueur, dans tes oreilles tu finis ta vie, elle bourdonne les abeilles.
Le bruit et l'odeur, le bruit et l'odeur, le bruit du marteau piqueur. Le bruit et l'odeur, le bruit et l'odeur, le bruit du marteau piqueur. Le bruit et l'odeur, le bruit et l'odeur, le bruit du marteau piqueur. Le bruit et l'odeur, le bruit et l'odeur, le bruit du marteau piqueur.
Comment voulez-vous que le travailleur français qui travaille avec sa femme et qui ensemble gagne environ 15 000 francs et qui voit sur le palier à côté de son HLM entasser une famille avec un père de famille, trois ou quatre épouses et une vingtaine de gosses et qui gagne 50 000 francs de prestations sociales sans naturellement travailler? Si vous ajoutez à cela le bruit et l'odeur, eh bien, le travailleur français sur le palier devient fou. Et ce n'est pas être raciste que de dire cela. Nous n'avons plus les moyens d'honorer le regroupement familial. Et il faut enfin ouvrir le grand débat qui s'impose dans notre pays, qui est un vrai débat moral, pour savoir si il est naturel que les étrangers puissent bénéficier, au même titre que les Français, d'une solidarité nationale à laquelle ils ne participent pas puisqu'ils ne paient pas d'impôts.
Ah, les classiques, le bruit, l'odeur de Zebda.
Toujours aussi d'actualité, c'en est... consternant, je dirais peut-être.
Ouais. Oui, Chirac, Chiraki, faut écouter jusqu'à la fin de la pièce pour entendre ses propos élogieux.
Ce n'est pas raciste que de dire cela.
Il est quasiment mort, donc voilà. On va parler de logement et immigration. J'aurais aimé savoir quelqu'un pour faire une entrevue qui vous aurait parlé plus des statistiques, des enjeux, de l'analyse sur discrimination raciale, discrimination en lien avec l'emploi. Mais j'ai pas pu avoir quelqu'un. Je suis allé à la manifestation, par contre, hier, qui avait lieu dans le quartier Saint-Michel, organisée par le FRAPRU, Front d'accès, Front d'aménagement.
Pas pire de l'abscisse.
Ouais. Front d'aménagement populaire et réappropriation urbaine. Donc, le FRAPRU, le regroupement des comités de logement qui luttent pour le logement social au Québec, en collaboration avec le bureau Info Logement de Saint-Michel et plusieurs autres comités de logement comme le CAP de Parc Extension, le BAI d'Hochelaga, le Popir du Sud-Ouest, qui était dans l'organisation de la manif. Intéressant parce qu'il n'y a pas eu souvent des manifs logement et discrimination. Et le logement et discrimination, surtout pas organisé par le FRAPRU. Le RECLAC est un peu là-dessus des fois, lui qui s'occupe du logement privé. Mais c'est sûr que dans un cadre de pénurie de logement de plus en plus important, qui revient un peu, on parle d'un retour à la crise du logement du début des années 2000. Évidemment, les premiers qui vont payer en général, c'est les familles et les personnes migrantes arrivées récemment. Hier, c'est sûr que c'était ça un peu l'enjeu. Il y avait des locataires de différents quartiers qui parlaient, entre autres. C'est sûr que les personnes racisées et les autochtones, parce qu'on fait lien de plus en plus en lien avec, entre autres, l'itinérance des Autochtones. Donc, se font beaucoup plus refuser des logements par des propriétaires privés à cause de leur origine, à cause de leur identité, que ce soit au téléphone ou que ce soit en personne. Donc, il y a vraiment un problème là-dessus.
Oui, c'est à cause. Soit leur nom au téléphone, ça peut être l'accent, le nom,
exactement.
Le nom de la personne.
Puis en personne, on compte pas les cas de personnes qui ont été voir un logement, visité. Ils sont fait dire, on va vous rappeler plus tard. Puis une semaine après, il est toujours affiché, puis ils n'ont pas eu de nouvelles. Donc, on se pose des questions, évidemment. Et aussi, souvent, les personnes arrivées récemment ou marginalisées, ben, connaissent mal leur recours au niveau de la régie du logement, au niveau de la commission des droits de la personne. Donc, méconnaissance, difficulté des recours pour ces personnes-là. Et ce qui est intéressant dans la manif d'hier aussi, c'est qu'on parlait du logement privé où il y a de la discrimination, mais aussi de l'accès au logement social, qui est souvent une porte de sortie pour avoir un logement moins cher, plus salubre, de bonne dimension, dans un lieu sécuritaire. Et, ben, vous savez que les personnes, faut qu'elles soient soit résidentes permanentes ou citoyennes pour avoir droit à une subvention au loyer. Des personnes réfugiées en attente de statut qui n'ont pas complété leur résidence permanente n'ont pas accès à du logement social.
Oui, ça
c'est dans la loi
pas.
Depuis toujours.
Ah, okay.
Puis ça, c'était une demande hier de normaliser ça.
Ben oui.
On parle des personnes donc qui ont soit un permis de travail ou soit qui attendent d'avoir leur réponse, qui pourraient au moins temporairement avoir accès d'urgence, par exemple à un logement social ou en tout cas pour une période, le temps qu'ils puissent avoir leur papier, par exemple. Donc, surtout dans un cadre...
Surtout qu'il y a c'est la période où les gens sont le plus dans la précarité. Là,
exactement.
T'sais.
Qui ont moins de revenus souvent, pas
le
droit de travailler.
Le besoin criant, il est à ce moment-là. Là.
Exactement, exactement. Puis ces gens-là souvent se retrouvent à être un peu exploités par des propriétaires dans certains quartiers qui vont les cibler, leur faire payer trop cher un logement insalubre avec de la moisissure et tout et tout. Donc, il y a cette dimension-là qu'on a relevé hier à la manifestation. Et c'est ça, dans un contexte plus général, ben, le taux d'inoccupation est à 1,9% à Montréal actuellement, le plus bas en 14 ans. Et ben, c'est sûr que c'est assez élevé dans des quartiers comme Côte-des-Neiges, entre autres, et Parc Extension. Donc, c'était vraiment l'idée de la nécessité de la manifestation d'hier. Et ben, peut-être mentionner aussi que ben, le budget de la CAQ est le premier en 20 ans où il n'y a aucun nouvel argent pour le logement social. Donc, puis on vient en crise du logement, donc c'est assez ironique. Peut-être quelques statistiques pour vous donner une idée en terminant cette chronique. Ben, c'est sûr que les... excusez-moi. Oui, 36% des ménages composés de personnes immigrantes ont des besoins impérieux de logement. Ça, c'est une mesure de Statistique Canada. C'est 30% pour la population non immigrante. Le tiers des plaintes déposées à la Commission des droits de la personne du Québec pour discrimination en logement, c'est relié à l'origine ou la couleur de la peau. Les ménages locataires issus de l'immigration récente, 5 ans et moins, paient plus cher pour se loger que les ménages non immigrants. 794 en moyenne contre 702 comme loyer médian dans les locataires. Et lorsque ces ménages ont une femme comme principal soutien financier, ils paient 10% plus cher que les femmes non immigrantes. Donc, c'est particulier. Ils ont moins d'argent souvent, mais payent plus cher parce qu'ils sont refusés dans des logements souvent plus vite accessibles. Donc, ils se retrouvent dans des logements aussi souvent trop petits pour le nombre de personnes qu'il y a.
Ouais, non, c'est ça.
Parce que
la pénurie de logements quand même aussi à Montréal, c'est ce qui manque surtout, c'est des logements qui peuvent accueillir des familles.
Entre autres, exactement.
C'est genre des 5,5, 6,5.
Exactement.
En général, 3,5, il y en a, tu sais, il y en a plus.
Oui, de plus en plus, des 2,5, des studios, tout ça.
C'est ça.
Mais les logements, comme tu dis, pour des familles, autant au niveau social qu'au niveau privé, il y a un problème important de manque. Donc, ben, c'est sûr qu'avec un retour à une crise du logement semblable au début des années 2000, où les loyers avaient beaucoup augmenté, le taux de rareté était très faible, très fort, si on veut. Puis, on faisait lien avec le fait que, ben, ce qui touche les personnes migrantes, ben, c'est souvent la discrimination, la stigmatisation, certaines formes de violence institutionnelle ou sociale. Et là, quand on fait le lien avec le projet de loi 21, tu sais, puis les signes religieux.
C'est ce que j'allais dire.
Fait qu'une femme musulmane qui cherche un emploi, qui peut pas en avoir dans certains secteurs, qui cherche un logement, qui cherche...
Qui porte le voile.
Oui.
Bonne chance.
C'est ça, exactement. Donc, si on veut s'occuper des vraies affaires, comme disent les politiciens, ben, on pourrait s'occuper, entre autres, d'éliminer ces discriminations-là, de permettre aux gens de porter plainte, et surtout que les logements sociaux soient de plus en plus accessibles, qu'il y en ait de plus en plus pour... Parce qu'on sait que les personnes migrantes, c'est souvent l'endroit où ils se retrouvent, parce que c'est vraiment la bonne place pour avoir...
Non, puis le logement social aussi, quand t'es dans une... Tu sais, il y a un sentiment de communauté aussi dans les logements sociaux, en coopérative d'habitation et tout, donc c'est un facteur de...
D'intégration
aussi, puis de
briser l'isolement.
Ouais. C'est ça, de pour que les gens puissent se faire un réseau social plus rapidement.
Voilà. Fait que ça pour dire que, ben, la manifestation hier, il y avait seulement une centaine de personnes, ce qui était un peu décevant pour Manu Dufrapru sur ces enjeux-là. Donc, encore faire les liens entre logement, personnes migrantes, que les groupes travaillent ensemble, c'est encore du travail à faire. Fait qu'on suit les prochaines activités de ce côté-là.
Voilà. Ben, merci Mathieu.
Ben, merci.
C'est déjà tout, en fait.
Merci.
Merci Simon aussi à la mise en onde. C'est déjà tout pour aujourd'hui. C'est la fin de notre deuxième édition des Apatrides Anonymes. Nous vous rappelons que vous pouvez nous écouter en balado sur choc.ca. Vous pouvez aussi nous rejoindre en nous écrivant à Apatrides Anonymes au pluriel. @resist.ca. Je vous invite également à visiter notre site web qui est toujours apatridesanonymes@.info. Éventuellement, on va avoir une page Facebook, là. Ça s'en vient.
Oui.
Alors, on vous donne rendez-vous pour la prochaine édition de notre émission le 21 avril le prochain, donc dimanche dans deux semaines, à la même heure sur les ondes de choc. Notre sort, ni même une goutte de pluie, tout au fond du puits.